Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole pour chacun de nous ce matin, pour qu'à la sortie de ce moment, nous soyons transformés par son esprit qui applique cette parole à nos cœurs. Quelques informations. Voilà, j'aime bien travailler dans la transparence, surtout avec Jacques, qui en ce moment se trouve à Namur, en train de visiter une église. Je sais de même pendant deux semaines qui suivent. Donc pendant deux dimanches, ne vous étonnez pas si mon épouse, nous serons absents, nous serons en visite du côté de Charleroi, à Chapelle-Liard-Limont, puis du côté de Waterloo. Concernant le week-end du 1er mai, qui s'adresse aux jeunes, voilà une information supplémentaire, c'est que nous avons estimé dans le comité que ce week-end serait réservé particulièrement à la formation de leaders, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la présidence de club, d'école du dimanche. Voilà, quant à la préparation de messages, nous avons estimé que le temps était arrivé d'avoir ce moment de préparation et de susciter l'intérêt pour les choses de Dieu en ce qui concerne l'engagement dans l'Église. Vous n'êtes pas sans savoir que nous possédons quatre listes des apôtres que Jésus a envoyés. D'ailleurs, le mot apôtre veut dire envoyé. Donc des disciples que Jésus a formés lorsqu'ils étaient côte à côte et qu'il envoyait. Il y a trois listes qui se trouvent avant la résurrection et puis une liste qui se trouve après la résurrection. C'est dire qu'entre ces deux listes, enfin celle qui se trouve dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc, et celle qui se trouve dans les Actes des Apôtres, il y a une nuance, une différence, puisque nous savons que Judas, après la résurrection, même avant la mort du Seigneur, n'était plus de ce monde. Il s'est lui-même pendu à cause qu'il a vendu le Seigneur et qu'il a été remplacé par Matthias. Lorsque l'on lit ces quatre listes de disciples, il y a bien sûr quelques nuances parce que les disciples possédaient des noms tantôt araméens, tantôt grecs, tantôt hébreux. Matthieu, Lévi, Simon, hébreu, Shimon Peres, qu'on connaît, hébreu, araméen, qui était la langue véhiculaire lors de la présence du Seigneur Jésus, donc en Palestine. Le nom araméen, c'est Céphas pour Simon, dit Céphas, et puis en grec, Petros, Pierre, qui a été le nom français. Donc ne nous étonnons pas quand nous lisons ces quatre listes des apôtres, d'y découvrir des noms parfois qui sont différents, parce que voilà, il y a des noms qui sont tantôt en hébreu, en grec, en araméen. Quand le Seigneur est ressuscité, il y a eu Matthias, et voilà ce qu'il est dit pour ceux qui ont suivi la mission que le Seigneur leur a donnée et qui allait être les fondements sur lesquels l'Église allait s'appuyer, les prophètes, les apôtres, avec cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Il nous est dit, il faut, acte chapitre 1er verset 21, il faut donc que parmi ceux qui nous ont donc accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, il y en ait qui nous soit associé, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Ainsi donc, après la résurrection, du Seigneur Jésus. Les apôtres ont été des témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'ils sont devenus les fondements même de l'Église. Quand je dis fondement, leur enseignement a été pour nous amener à édifier l'Église de Jésus-Christ, sachant, et je le répète, que Jésus-Christ est le seul fondement, à savoir la seule pierre sur laquelle les apôtres se sont appuyés eux-mêmes et par là ont été des instigateurs pour construire l'Église par l'action du Saint-Esprit. Je reviens à ses disciples. Si nous avions le temps, on pourrait faire un tour, pas de table, mais un tour entre nous, et nous poser la question, tiens, à chacun des noms des disciples, quel qualificatif vous pourriez donner à ce disciple que vous nommez ? Voilà, on pourrait se poser de telles questions. Voilà, j'en cite déjà un, je viens de le citer, Thomas. Voilà, on lui donnerait le qualificatif de traître, de comptable, de quelqu'un qui aime l'argent. Voilà, on pourrait lui donner ces qualificatifs. Pierre, voilà, l'impulsif, voilà, quelqu'un qui est entêté, quelqu'un qui agit avant de réfléchir. On pourrait citer aussi le nom de Jean. Le Jean, il est connu sous le nom de celui que Jésus aime. Et d'ailleurs, dans son évangile ainsi que dans ses lettres, il nous parlera constamment de l'amour du Seigneur et de l'amour qui doit nous animer entre nous. Mais quand on connaît le caractère de Jean, quand il a été rencontré par le Seigneur et que le Seigneur l'a appelé, et qu'il était parmi les apôtres, à un moment donné, dans leur parcours sur la terre, ils sont refusés de mettre les pieds dans un village. Et Jean, dans sa nature, est en train de dire, « Est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse descendre le feu du ciel ?» C'était quelqu'un qui... Contrairement à ce qu'on pense, qu'il était amoureux et plein d'affection pour les gens, était prêt à faire descendre le feu du ciel. Voilà, et on pourrait ainsi parler de tous ces disciples, les uns après les autres, en leur donnant un qualificatif. Et en décrivant chacun des disciples, les évangiles nous les dépeignent les apôtres tels qu'ils sont, pas comme des surhommes. Ils nous les dépeignent avec leur faiblesse, leur force, leur caractère et de quelle manière Dieu les a utilisés pour son ministère et la mission qu'il allait leur confier. Ce matin, je voudrais attirer notre attention sur un disciple qui a été évoqué la semaine passée par Christine, et en accord bien sûr avec Jacques, parce que c'était déjà dans mes pensées avant même que Christine ne raconte l'histoire de Thomas. Et puis j'en ai parlé à Christine pour voir si ça n'allait pas la blesser que je revienne sur cet apôtre Thomas. Si on le qualifierait, ce serait par le mot incrédule. Thomas l'incrédule. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le déclare après la résurrection, lorsque Thomas, qui est tactile, qui veut voir. Voilà, c'est le gars qui aime bien toucher les choses, qui aime bien comprendre. Et Jésus de lui dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, le fait de le nommer l'incrédule vient de la parole de Dieu. Ce mot d'incrédule est généralement utilisé par ceux du monde qui se déclarent ne pas croire en Dieu. C'est quand même bizarre. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils savent prendre ce qui leur convient de la parole de Dieu. Ah, moi, je suis Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Oh, ben, ok. Donc, ils extraient ainsi dans l'Évangile certains mots alors qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne savent même pas qui il est, pour certains. Et pourtant, c'est grâce à ces apôtres, et en particulier Thomas que nous allons découvrir, que nous allons être éclairés sur le fondement même de la foi des chrétiens, de la foi de l'Église. C'est grâce à Thomas que nous allons comprendre ce qu'est le véritable engagement, c'est-à-dire un engagement qui devient une loyauté envers Dieu, un engagement qui sera comme un parfum à l'égard aux narines de notre Dieu. Ce n'est pas du bluff, c'est quelque chose d'enraciné et de profond. Un engagement comme une adoration. Et puis nous allons apprendre aussi par Thomas qu'il y a un chemin, pas des chemins, mais un chemin qui conduit à la maison du Père. En entendant Christine la semaine passée, je me suis souvenu d'un chant qui a bercé mon enfance alors que j'étais sur les genoux de ma grand-mère. Et puis ce chant-là, je l'ai appris aux générations qui suivaient. Et puis je me suis dit, oh, allons-y, on se lance dans l'eau, j'ai envie de vous l'apprendre. Et il va être projeté. Il s'appelle Thomas, le chant, hein? Voilà. On ne s'est pas concerté, sinon que j'ai chantonné à l'oreille de Joël par téléphone la musique, que je lui ai donné une soi-disant partition. Donc, voilà. On va le chanter la première strophe à nous deux, on va essayer, et puis on va essayer de le chanter ensemble. Et il est facile, il fait penser à une fanfare de l'armée du salut, parce que c'est l'hymnologie d'il y a 60 ans. Et bon, libre à chacun de mettre le rythme qu'il veut. Si, c'est comment la première note, il faut que tu me le dises. Si, c'est ça? Si, voilà. Si tu ne crois pas, Thomas, qu'une nuit à Bethléem, et on recommence, est né celui qui devra mourir à Jérusalem. Mange et bois, réjouis-toi, demain tu mourras. Voilà un chant d'enfant, mais est-ce que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu? Oui, alors je sais qu'il y a des mamies parmi nous, et je voudrais tellement qu'elles transmettent, pas seulement ça, mais ce qui suit. On reprend la première strophe et on prolonge avec les suivantes. Hein. Ça y est, on y va. Si tu ne crois pas, Thomas, qu'une nuit à Bethléem est né celui qui mourra, mourira à Jérusalem, mange et bois, réjouis-toi, demain tu mourras. Si tu ne crois pas, Thomas, que c'est parce qu'il t'a aimé, que Jésus est mort pour toi, bien avant que tu sois né, mange et bois, réjouis-toi, demain tu mourras. Si tu ne crois pas, Thomas, que Dieu l'a ressuscité, lui qui fut par toi 100 fois renié et crucifié, mange et bois, réjouis-toi, demain tu mourras. La mélodie va changer. Si tu crois tout simplement, sans te créer de problème, si tu crois comme un enfant, simplement que Jésus t'aime.
qui croit, réjouis-toi. Demain tu vivras.
Ça devient plus compliqué là. On va le laisser comme ça. Hein, c'est bien. C'est pour dire qu'il y a parfois des choses que nos grands-parents, nos parents ont inscrites dans nos têtes. Et je parle ici d'un chant qui a refait surface la semaine passée et que je n'avais plus chanté aux enfants depuis pour plus de 40 ans et que ma grand-mère avait elle-même chantonné alors que j'étais sur ses genoux. Donc c'est pour dire l'importance de l'enseignement vis-à-vis de nos enfants. Nous revenons à Thomas. Et nous allons partir à sa découverte. Si son nom est mentionné dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, bien sûr des actes après la résurrection, l'apôtre Jean, dans son évangile, ne fait pas mention de lui dans une liste. Bien que il n'y a pas de liste dans Jean, bien que l'appel de certains disciples dans le chapitre 1er y soit mentionné. Thomas, dans l'évangile de Jean, le seul évangile, a parlé de faits que Thomas a vécu. Nous allons le découvrir alors que Jésus reçoit le message comme quoi son ami Lazare est malade. Nous allons découvrir Thomas alors qu'il est dans la dernière Pâque juive avec le Seigneur Jésus. Et puis, nous le découvrirons après la résurrection, à la fois une semaine comme aujourd'hui après Pâques, et puis lors de la pêche miraculeuse. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et au verset 16. Nous reviendrons sur ce chapitre en détail après, mais je voudrais souligner ici un surnom qui est donné à Thomas. Voilà, Thomas vient d'entendre l'annonce et du désir du Seigneur d'aller à Béthanie pour revoir cette famille d'amis, Marthe, Marie et Lazare. Et voilà ce qu'il est dit, verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. » Thomas, nom araméen, Didyme, Didymos, nom grec, qui tous les deux veulent dire la même chose, à savoir « jumeau ». Était-il le frère jumeau? La Bible n'en parle pas. Était-il un vrai, un faux jumeau? Je ne sais pas. Est-ce que son frère jumeau a rencontré Jésus? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en me rappelant, en réfléchissant à ce que des jumeaux peuvent vivre, voilà. Ils sont identiques en apparence, mais ils ont chacun leur propre caractère, leur propre goût. Ils ont des signes particuliers qui ne sont pas toujours discernables par le commun des mortels. Voilà, ils sont très complices, ils pensent la même chose ensemble, ils ont des attitudes identiques. Voilà, ils sont différents et pourtant on les confond. Ils sont souvent pris l'un pour l'autre. Et j'imagine que pour Thomas, comme pour les jumeaux que nous pouvons connaître, ça doit être énervant. Vous appelez celui-là Jules. Ah non, je ne suis pas Jules, je suis Marc.
Voilà, ça doit être énervant. Et alors, quand maman ajoute sa petite touche féminine en habillant les deux jumeaux de la même manière, alors là, c'est la catastrophe. Ça énerve davantage le frère. Voilà, je suis toujours comme lui. Voilà, je ne vous apprends rien en disant que j'ai d'énormes difficultés à retenir les noms de chacun. Et souvent, j'en rebaptise plusieurs. Bon, imaginez, à Genneval, j'ai vu des jumelles grandir. L'une s'appelait Anaïs et l'autre Élodie. Et voilà, au début, je prenais l'une pour l'autre. J'avais pu ensuite discerner quel était le signe distinctif. L'autre avait une petite mèche grise qu'elle n'avait pas. Et puis, voilà, autant elle s'énervait parce que je lui disais « T'es Anaïs ?»« Ah non, je suis Élodie. » Autant ce fut un jeu pour me déstabiliser par après, parce que la mèche, elle s'était teintée les cheveux différemment. Et à ce moment-là, c'est moi qui m'énervais. Ceci pour dire que tu sois caché derrière quelqu'un, que tu sois pris pour quelqu'un par les hommes, que tu sois dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre d'un frère, d'un papa, parce que tu as peur de porter son nom correctement. Quand on parle de toi, c'est toujours en référence. Ah, t'es le fils de, t'es la fille d'un tel. Je peux comprendre la détresse que certains vivent en étant dans l'ombre, en étant cachés par telle et telle personne. Mais il y a une chose qui est certaine, Jésus ne te confond pas. Jésus te connaît. Il connaît ton nom. Il ne va pas te prendre pour quelqu'un d'autre, même s'il y a une ressemblance, même si tu vis dans l'ombre. Jésus a un plan particulier pour toi. Il a un projet pour toi. Il n'y a pas de confusion. Comme on l'a dit, tu es précieux à ses yeux. Tu as de la valeur. Pas parce que tu ressembles à l'autre, mais pour toi-même. Pour ce que tu es en toi-même. Thomas, un juif, était sans doute dans la lignée, allez, on ouvre une petite parenthèse, hein, de jumeaux. Vous en connaissez des jumeaux dans la Bible? Voilà, Jacob et Ésaü. Jacob qui deviendra Israël. Et Thomas était dans cette lignée. Voilà, je ferme tout de suite la parenthèse. Voilà. Pourquoi a-t-il, Jésus a-t-il appelé Jacob plutôt que Ésaü? On l'a souligné dans notre étude sur Malachie. Pourquoi a-t-il appelé Thomas plutôt que son frère pour réaliser un projet particulier? Si le frère a entendu l'évangile et s'est donné à Jésus-Christ, Jésus a un projet pour cet autre frère. Mais pour Thomas, il a eu le projet que nous allons découvrir. Donc, Jésus a un projet pour toi. C'est donc Jésus qui a choisi Thomas pour être apôtre à part entière. À part entière. Qui que tu sois, caché dans l'ombre de quelqu'un, Jésus te veut à part entière. Avec Jésus, il n'y a pas de disciple de première et de deuxième zone. Il te veut, toi et ne te soucie pas de ce qu'il fait avec l'autre. Il te veut toi. Alors quand je réfléchis dans la méditation à ce que Thomas, ce jumeau, a dû vivre, parce que je me pose aussi la question, est-ce qu'un jumeau sait vivre séparé de son frère? En méditant cette prédication, je me disais, mais quand des jumeaux veulent se marier, ils sont amoureux de la même femme ou quoi? Je sais pas, moi, je me pose cette question, quoi, hein? Et quand Jésus dit, quand les paroles de Jésus ont sonné à ses oreilles, ça a dû être difficile. Écoutez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 14. Si quelqu'un veut venir après moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à son frère. Ah, ça a dû être terrible pour Thomas de choisir entre son frère et Jésus. Et pourtant, c'est Jésus qui le dit, tu dois me préférer moi. Et même préféré à sa propre vie, il ne peut me suivre et être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. On imagine que pour Thomas, ce fut un choix difficile. Et peut-être que les attaches à cette terre qui sont nôtres sont difficiles entre choisir Jésus ou choisir les attaches qui sont nôtres. Et c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Je voudrais revenir sur le chapitre dont nous avons lu un seul verset, et nous en relirons aussi, mais je voudrais le cadrer. Jésus, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il parlait, les gens disaient de lui, nul ne parle comme lui, il n'y a personne. Parce qu'il parlait en vérité, il parlait de la part de son Père, et il interpellait ceux qui vivaient dans l'ombre, et ça les secouait. Être mis en lumière par Jésus, ça devait les déranger. Jésus rendait la vue aux aveugles. Il remettait debout des paralytiques. L'homme à la main sèche devenait une main puissante. Il rendait l'oreille attentive. Voilà, les sourds pouvaient entendre. Il délivrait ceux qui étaient prisonniers du péché. En fait, il pardonnait. Comme seul Dieu peut le faire. Et tout cela provoquait la colère des chefs religieux de l'époque qui essayaient de mettre la main sur Thomas, sur Jésus, et par conséquent sur ses disciples, pour le lapider Jésus, pour l'arrêter, pour le mettre à mort. Ce que les disciples ne savent pas dans Jean chapitre 11, c'est que Jésus ne se laissera jamais arrêter tant que son heure de passer du monde au Père, c'est-à-dire de passer par la croix et la résurrection, n'est pas encore présente. Jésus va échapper à tous ces moments. Mais les disciples n'en savent rien. Et c'est ainsi que Jésus, voyant qu'on essaie de le lapider, de le tuer, s'enfuit. Il s'enfuit de Jérusalem et part vers l'est du Jourdain, sans doute en Pérée. La Pérée, c'est du côté de l'est du Jourdain. On pourrait dire que c'est à l'ouest, on est à la frontière entre la Judée et la Samarie. Du côté d'Énom, où Jean-Baptiste baptisait. Du côté aussi de Béthanie, qui n'a rien à voir avec Béthanie, au sud de Jérusalem, où Marthe, Marie et Lazare habitaient. Et c'est dans ces contrées que Jésus prêche à nouveau, dans plusieurs villages. Et c'est là, en Pérée, qu'il reçoit un messager venant de son amie Marthe, sœur de Marie, avec cette annonce urgente. Notre frère, ton ami Lazare, est gravement malade. Et nous savons que cette maladie engendrera la mort. Donc il est gravement malade. Et plutôt que de se presser, Jésus reste encore 2 jours en Pérée. 2 jours. Lui, il connaît toutes choses. Et en lisant l'évangile de Jean, chapitre 11, nous découvrirons que Jésus dira, c'était bien qu'on reste encore 2 jours. Voilà, qu'on attende que Thomas décède, parce qu'il y va de la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. On peut imaginer la conversation qu'il y a au sein de la troupe de Jésus, la troupe des apôtres, sur les dangers de retourner à Béthanie, là au sud-est de Jérusalem, à environ 2,5 km, 3 km de Jérusalem. On peut imaginer les conversations des disciples qui hésitent de retourner en Judée. D'ailleurs, ils le diront dans le chapitre « Lazare dort ». C'est toi, Jésus, qui viens dire que Lazare dort. Donc, il va guérir, quoi. Ça ne sert à rien de retourner en Judée. Et les disciples sont là, en train de s'interroger. Et j'entends les disciples dire... Écoute, Seigneur, ne t'expose pas davantage au danger. Et nous allons lire maintenant ce qui se passe dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 8. Les disciples dirent à Jésus... « Maître, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu désires retourner en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, Jésus leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort et non pas de son endormissement, parce qu'il croyait que Lazare s'était assoupi. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, vers Lazare. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, jumeau, dit aux autres disciples, « Allons aussi mourir avec lui. » Je ne sais pas si j'avais été disciple du temps du Seigneur Jésus, avec toute cette foule de questions dans ma tête sur un destin ou des désirs des Juifs de tuer Jésus, je ne sais pas si j'aurais été capable d'être satisfait de la réponse que Jésus dit à ses disciples. Il y a 12 heures au jour. Bah oui, il y en a même 24. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et puis si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas. Et puis s'il marche la nuit, il va trébucher. Et les disciples semblent satisfaits de la réponse de Jésus. Je ne sais pas moi si avec mon intelligence j'aurais pu comprendre. C'est parce que je me suis un peu attardé sur cette réponse qui me paraissait obscure que j'ai pu discerner quel était le message que Jésus proclamait à ses disciples. Si le disciple marche dans la communion avec son Sauveur, dans la communion, dans l'obéissance, dans la lumière, en faisant la volonté du Seigneur, alors, s'il marche dans cette obéissance, le disciple ne court aucun risque. Nous avons affaire à un Seigneur qui est tout puissant, on l'a chanté. Un Seigneur qui est le Seigneur de l'histoire. Même si Satan essaie de placer la tribulation dans le chemin des disciples. Rappelons-nous que Jésus disait à ses disciples, « Des tribulations, vous en aurez. Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Suivre Jésus ne veut pas dire que le diable ne viendra pas semer des embûches sur notre route. Il est tellement cruel, il est le meurtrier, il veut tellement nous séparer de Dieu. Il veut tellement nous enlever ce qui est cher, ce qui est notre espérance, la vie éternelle, notre héritage céleste. Sachons, bien-aimés, qu'il n'arrivera jamais. Nous sommes dans les mains du bon berger et personne ne peut nous ravir à la fois des mains du Père et de la main du bon berger. Oui, le diable saura exercer sa cruauté. Oui, le diable parviendra avec violence peut-être à nous disperser, mais jamais il ne pourra nous ôter des mains du bon berger. Alors quand je lis cela avec cette pensée que le Saint-Esprit provoque en moi, je me dis, oh Seigneur, pas étonnant qu'un Thomas puisse dire, ben alors, partons. Si toi tu dois mourir, ben nous aussi alors. Et puis je me suis dit, Thomas dit dîme, le jumeau qui dit aux disciples, allons aussi afin de mourir. Je me suis dit, on n'a pas dans l'écrit les intonations, les émotions que Thomas a pu dire. Est-ce qu'il l'a dit avec dépit? Parce qu'on n'a rien d'autre. On ne va pas perdre la face, on va suivre Jésus, même sur ce chemin de mort. Peut-être que Thomas a eu de tels sentiments, ce n'est pas marqué dans le texte. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, c'est la fatalité, voilà, on suit Jésus, tant pis. Peut-être que c'est avec énervement qu'il a dit cela. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce qui est certain, c'est ma conviction. Thomas n'est pas le reflet de cela. Thomas, il m'apparaît comme quelqu'un, un disciple qui est déterminé. Un fataliste courageux. A-t-il compris les paroles du Seigneur? Il y a 12 heures au jour, il y a 12 heures dans la nuit. Non, je ne pense pas qu'il ait compris. Bien que son attitude et sa réponse, allons, suivons Jésus, peu importe ce qui nous arrive, même si la mort est présente sur notre route. En réfléchissant à cela, je me suis dit, c'est facile pour moi qui connaît la fin du récit, de crier à Thomas, vas-y, allez, go, lâche les amarres, suis le maître, t'as rien à craindre. Tu penses suivre un chemin de mort, mais tu es sur un chemin de vie, sur un chemin de résurrection. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu suis le Seigneur de la vie. Reste attaché à lui. C'est facile de dire cela après avoir lu le récit. C'est facile d'aller évangéliser dans les quartiers paisibles de Glun, de Anse, de Liège, mais à Skarbek. Si le Seigneur m'envoyait en Syrie, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en RDC, là où se trouve la persécution, aurions-nous le même zèle de prendre notre guitare et d'aller chanter l'Évangile dans les coins de rue? Connaissez-vous un homme que Dieu a appelé à aller en Irak prêcher? Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et que plutôt que d'aller en Irak, il a désiré partir sur une croisière sur la Méditerranée vers l'Espagne. Et c'est là, dans ce bateau, que Dieu l'a rappelé et lui a parlé pour la deuxième fois. Son nom, Jonas. Va à Ninive, va proclamer la repentance. Et Jonas, plutôt que d'aller par là, d'aller par là. Oui, il a eu peur, mais Dieu le retrouvera. Ceci pour dire, bien-aimé, que suivre le Seigneur engage dans notre vie à rencontrer des tribulations, à rencontrer des risques, à rencontrer la violence, à être dans la peur, parce que celle-ci est inscrite dans ma chair d'homme, et que Christ m'invite à déposer cette peur à ses pieds. Et c'est là que, si Jésus exerçait avec puissance son appel sur moi à partir en Irak, je me souviendrai d'une parole, d'une prière que Jésus a dit à ses disciples. Regardez, la moisson est blanche, il y a peu d'ouvriers. Et là, sincèrement, je prierai le maître de la moisson. Seigneur, envoie des ouvriers. Et en vous regardant ici, je dirai, ah Seigneur, celle-là, elle peut aller, elle convient. Celui-là aussi, Seigneur, envoie-le. Chers frères et sœurs, que pensons-nous de ceux qui ont fait le pas de la foi comme un Thomas et qui ont répondu à l'appel du Seigneur, j'irai. Allons, même s'il faut mourir. Peut-être que nous nous dirions en nous-mêmes, il est fou, c'est un kamikaze le gars. Un extrémiste, un fanatique, c'est oublier la différence qu'il y a entre un fanatique et un extrémiste et un enfant de Dieu animé par la foi en Jésus-Christ. Jésus ne demandera jamais à quiconque de devenir une bombe humaine. Jésus ne nous empêchera jamais d'exercer notre liberté. Nous sommes libres. Il appelle, on est libre avec lui de répondre, oui ou non. Jésus ne nous conduira jamais sur un chemin de mort, bien que le diable interviendra. Jésus nous assure de sa présence. Jésus n'est pas un mercenaire. Il est le bon berger. Il est le chef de file. Et c'est là toute la nuance qu'il y a à faire entre des kamikazes et quelqu'un qui est animé par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Paul disait dans Éphésiens. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, qui sont contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il nous invitait à être forts. C'est celle de droite qui fonctionne. Thomas, un jumeau courageux. J'ouvre une parenthèse. Je suis contre comment ça dit, ceux qui se marient avec plusieurs femmes là. Polygamie, hein. Je suis contre cela. Hein. Donc ne méprenez pas quand j'ai dit que des jumeaux parfois tombent amoureux de la même fille. Hein. Non, je vous rassure. Non. Mais voilà, ça peut exister. Hein. Voilà. Un jumeau courageux, un exemple déterminé à suivre Jésus au risque de mourir pour lui. Connaissons-nous dans notre entourage de tels hommes, de telles femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui font dès lors partie de cette nuée de témoins qui nous montrent, à eux aussi qui nous montrent l'exemple du Christ, afin de courir dans la voie, sur le chemin que Jésus a tracé pour nous, avec persévérance dans la carrière, en ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Deuxième exemple où Jésus parle, où l'évangile de Jean parle de Thomas, et ce sera au chapitre 14. Déjà au chapitre 13, mais je vais resituer le contexte avant de lire. Jésus a demandé à ses disciples, parce que c'est son vif désir de manger la Pâque juive, pour la dernière fois, « J'ai désiré manger vivement cette Pâque avec vous », dit Jésus à ses disciples. Et nous savons que préparer la Pâque juive réclame beaucoup d'investissement. Pour avoir vécu le Seder, je sais que c'est un repas qui dure plus ou moins 2 à 3 heures. Parce qu'il y a des paroles de bénédiction qui sont prononcées. Il y a le souvenir de la délivrance de l'Égypte, de la délivrance du Pharaon. Il y a l'espérance qui est proclamée. Et voilà, c'est dit brièvement, ces herbes amères, voilà, l'agneau pascal, le pain, le vin, tout cela fait partie de cette Pâque juive. Et c'est durant cette Pâque juive que Jésus va laver les pieds de ses disciples et montrer qu'il est parfait serviteur. Il est grand, mais c'est dans sa faiblesse que nous découvrons toute sa grandeur. Il se fait petit pour nous. Et là, dans Jean, il nous est dit qu'il lave les pieds, Jean chapitre 13, il lave les pieds de ses disciples. Et puis il passe au repas juif, à la Pâque juive. Et c'est là qu'il va désigner Thomas le traître. Judas, pardon. Oui, merci. Qu'il va désigner Judas le traître. C'est là que Jésus va lui dire, ce que tu as à faire, fais-le. Tu peux partir, tu es libre. C'est lorsque Thomas part que Jésus instaure son repas pour les chrétiens et qu'il va déclarer, redéclarer, ce pain, c'est l'expression de mon corps qui sera donné pour vous, l'expression de ce corps dans lequel le péché de l'humanité va être porté. Ce vin, c'est l'expression de mon sang qui va être livré pour vous, donné pour que tout péché soit effacé. C'est dans ce repas que Jésus instaure les signes que nous retraçons, que nous pratiquons et qui nous rappelle la mort du Seigneur, qui nous rappelle sa vie donnée, son sang qui a coulé et qui nous projette dans l'avenir. Et faites cela jusqu'à ce qu'il vienne. Et Jésus, sachant que son heure est proche, sachant qu'il est à Jérusalem et que les disciples sont inquiets pour sa vie, c'est au chapitre 14, on comprend alors ce que Jésus dit à ses disciples, 14 verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et c'est alors que Jésus va proclamer, va dire, « Oui, je vais mourir. Oui, je vais ressusciter. Oui, je retourne vers le Père. Il y a plusieurs demeures, verset 2, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Est-ce que lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en connaissez le chemin. Ne soyez pas tristes. L'heure de passer de ce monde au Père est proche. L'heure de ce sacrifice est proche. Mais je vais ressusciter. Je vais monter vers le Père. Je vais vous préparer une place. Et puis je viendrai vous chercher. Les paroles de compassion, les paroles de consolation, de réconfort suffisent-elles pour les disciples? J'imagine toujours lorsque mon épouse est allée conduire notre fils à l'école pour la première fois, malgré les paroles de consolation que maman pouvait dire, je viendrai te chercher, n'aie pas peur. Il y avait sur son visage l'expression de l'abandon. Il était en larmes. Les paroles ne suffisaient pas. Et ici, il me semble que pour Thomas, c'est pareil. Le Seigneur essaie de le réconforter, de l'encourager, mais les paroles ne lui suffisent pas. Thomas va alors interpeller Jésus. Et c'est comme si Thomas lui disait, je paraphrase, « Seigneur, mais pourquoi tu veux nous quitter? On est si bien avec toi. Reste, allez, t'en vas pas. Où vas-tu? Comment est-ce que nous pouvons te suivre ?» Verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas ne veut pas de chemin. Il veut Jésus. Il veut Jésus. Tout près de lui. Le serrer. Le suivre, le voir. Lui, le tactile. Et Jésus de lui dire, « Mais moi, je suis le chemin. » Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. C'est grâce à moi, dit Jésus, que toi, Thomas, et les disciples, et tous ceux qui croiront en moi, auront accès au Père. C'est ce qu'il dira au verset 6. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, je suis le chemin. accès au Père, accès à la vie éternelle, accès au royaume. Et c'est alors que Jésus est en chemin vers Gethsémané, qu'il va les encourager en disant, voilà, il y a un autre qui va arriver, il est avantageux que je m'en aille, pour que l'Esprit Saint qui viendra puisse vous consoler, vous conduire et me glorifier en vous et au travers de vous, et révéler les gloires du ciel. Troisième texte, et puis on clôture par là. Troisième texte dans Jean chapitre 20. Je cite le contexte pour, voilà, faire dans le temps qui m'est imparti. Les disciples ont peur. Ils se sont, après la résurrection du Seigneur, ayant été témoins de la crucifixion, bien que ayant fui, les disciples se sont enfermés. Je ne sais pas si les portes de sécurité à plusieurs verrous existaient déjà à ce moment-là, mais si elles avaient existé, sans doute qu'ils auraient choisi une chambre avec beaucoup de verrous. Peur de ce qui venait de se passer. Et Thomas n'est pas présent. Et on le montre du doigt. Allez, Thomas, où est-ce que tu es? La Bible ne le dit pas. Mais voilà. Moi, je réfléchis, je dis, voilà, Thomas qui vient dire, montre-nous le chemin, on veut te suivre. Pourquoi est-ce que Thomas ne serait pas en train de chercher après Jésus? Puisqu'il est témoin qu'on a pris le corps du Seigneur Jésus, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas en train de le chercher? Je ne sais pas, moi, c'est une question que je me pose. Peut-être est-il en train de pleurer seul dans son coin? Les évangiles ne le disent pas. Et voilà que les disciples disent à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Alors, Thomas a sans doute été déçu de ne pas avoir été présent lorsque Jésus apparaît aux disciples dans cette chambre haute. Et nous lisons à partir du verset 26, voilà, ça se passe 8 jours après la résurrection, et là c'est Thomas qui est présent. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, j'ai l'impression que Jésus revient exprès pour Thomas. J'ai l'impression. Puis il dit à Thomas, avance, verset 27, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois. Et Thomas répondit au Seigneur, « Ô mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui répond, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et si on avait le temps, on lirait les versets qui suivent, où Jésus se retrouve sur le bord de Galilée, en train de préparer un festin, un déjeuner pour ses disciples. Et Thomas est dans la barque et Jésus va opérer un miracle. On ne peut pas nier l'incrédulité de Thomas. C'est Jésus qui lui dit. Est-il le seul à ne pas croire les paroles de Jésus? Parce qu'on l'indexe, hein? Mais est-il le seul? Peut-être qu'il y a des Thomas parmi nous. Marie de Magdala est allée La première au tombeau, avec des aromates, ayant oublié que Jésus allait ressusciter. On va embaumer le corps du Seigneur. Elle revient vers les disciples en disant, le tombeau est vide. Et il nous a dit, les disciples ne le crurent pas, ne la crurent pas. Pierre et Jean, en entendant le témoignage de Marie de Magdala, ont-ils cru cette femme? Ils courent au sépulcre et par curiosité, et constatent que le corps du Seigneur Jésus a été volé. Ont-ils oublié que Jésus les avait avertis qu'il allait mourir, 3 jours après qu'il ressusciterait? Oui, l'ont oublié. Ou qu'ils n'ont pas cru. Pierre, fougueux, est rentré le premier dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il a constaté? Le tombeau vide. Il nous a dit qu'en regardant dans le tombeau vide, il a cru. Il a cru qui? La femme qui venait de lui dire où est-ce qu'on a mis le corps. Jean l'a suivi. Il a vu les bandelettes. Il a vu le linge, le linge. Lui aussi, il a vu. Il a cru. Pas bon. Les disciples ne crurent pas le témoignage des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus apparaît alors aux 11, puisque Thomas n'y est plus. Et Jésus va leur reprocher leur incrédulité. Cela est noté dans Marc chapitre 16, verset 14, et je vous le lis. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et cela nous est répété dans Luc chapitre 24 avec détail. Ses disciples, qui sont sur le chemin d'Emmaüs, revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas. Voilà. Et combien de fois Jésus leur a dit, vous êtes lents à croire, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Alors, je me pose la question, est-ce qu'il est juste de coller l'étiquette d'incrédulité sur le dos de Thomas? Thomas, pour moi, est un gars qui est entier. Il n'est ni chaud ni froid, comme à la Odyssée, il n'est pas tiède. Il a besoin de certitude pour s'engager. Et peut-être que comme nous, moi, quand Jésus m'appelle à prendre un chemin, que je suis comme un Gédéon, j'aime bien voir des signes. Seigneur, montre-moi que c'est bien là le chemin que tu veux pour moi. Le fait pour Thomas de toucher, de voir les marques, le rassure et l'amène à un engagement de foi intense. Car bientôt ses yeux ne verront plus Jésus. Et Thomas, réchauffé par les paroles du Christ, va alors s'écrier dans un engagement profond et sincère, « Mon Seigneur et mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu es celui qui est le chef de ma vie. Tu es celui qui a toute autorité. Tu es celui qui est au-dessus de tout sur ma vie. Tu es au centre de ma vie et toutes mes pensées sont pour toi. Et tu es mon Dieu. » On va conclure. Tu n'es peut-être pas un jumeau comme Thomas. Mais tu vis peut-être à l'écart, à l'ombre de quelqu'un. Quelqu'un te fait d'ombrage. Ne regarde pas lui. Regarde à Jésus-Christ. Il a un projet pour toi. Tu souhaiterais que Jésus te dépeigne le fil de ton histoire. Tu voudrais qu'il te renseigne sur le chemin que tu vas suivre. Et Jésus te dit, sois en paix. Suis-moi. Oh, c'est mon GSM qui me rappelle que... Quitte tes doutes et crois en moi. Oui, que nous avons besoin de réentendre l'amour du Christ lorsqu'il me dit, moi je suis le chemin. Et ce chemin, c'est la route nouvelle et vivante qu'il a créée, qu'il a ouverte au travers de sa chair meurtrie à la croix du calvaire. C'est là que le voile du temple, mais c'est là que le voile a été retiré pour que nous puissions avoir accès à la présence glorieuse de Dieu, parce que Christ, au travers de sa mort, nous a créé ce chemin nouveau. Oui, j'ai besoin de connaître et de réapprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je dois apprendre que Jésus souhaite que je marche par la foi et non par la vue. Parce que nous sommes invités dans un monde qui désire voir pour croire, à démontrer que nous, nous croyons pour voir. Je répète cette phrase, elle doit être notre leitmotiv. Nous ne sommes pas des gens, des chrétiens qui croyons parce que nous avons vu, mais nous voyons parce que nous croyons. Le monde a besoin de voir l'invisible au travers de mes engagements, par ma foi vécue. Et la conclusion, c'est rendons Jésus visible au travers de nos vies. Que l'Esprit de Dieu agisse en nous et par nous. Ce sera le meilleur des engagements, qui sera comme un parfum d'agréable odeur, une adoration aux narines du Père. Apprenons à remarcher par la foi et non par la vue. Et le Seigneur trouvera son plaisir en nous. Je cède la place pour un chant que j'ai proposé à Joël. Sans doute le connaissez-vous, on verra.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Persévère. Elle s'accomplira.
Je crois qu'on aura encore le temps d'apprendre. Alors dans Romains au chapitre 16, verset 21, l'apôtre Paul nous laisse ses paroles. À partir du verset 25 plutôt. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que l'apôtre Paul prêche et que nos frères prêchent. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu tenu secret pendant des siècles passés. Et qui s'accomplit de façon